Connaissez-vous l'histoire de cet homme riche qui s'évertuait à trouver un cadeau original à donner chaque Noël à son père? Un jour, il découvrit chez un oiseleur un oiseau capable de parler en 5 langues et de chanter sans une faute la Marseillaise tout entière. L'achat de cette merveille lui coûta la bagatelle de 15 000 euros. Mais il ne sourcilla pas, même pas en signant le chèque. Il a les sous. Il fit livrer l'oiseau chez son père 2 jours avant Noël. Quelques jours plus tard, il rendit visite à ce dernier pour s'enquérir de sa réaction à la réception de ce cadeau si original. « Alors papa, tu as bien reçu ce que je t'ai envoyé, mon cadeau de Noël ?» Et donc le père lui dit « Mais bien sûr !» Et qu'en as-tu pensé? Tu l'as aimé ?» continua son fils. « Oh que oui, mon fils !» s'exclama le père avec un sourire radieux. « Nous n'avons pas dégusté une aussi bonne fricassée pour Noël depuis bien longtemps !» Le vieil homme était évidemment passé à côté du plus important. Ce cadeau très spécial, il l'avait considéré comme une simple volaille, tout juste bonne pour la casserole. C'est bien dommage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent à côté du cadeau merveilleux que Dieu nous a offert, Jésus-Christ. Dieu a créé l'univers, le ciel, la terre, les animaux et les êtres que nous sommes. Et ce Dieu-là qui nous a créés est dans une profonde tristesse. Dans le monde entier, Noël est plus utilisé pour mettre les projecteurs sur le Père Noël que sur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Noël n'est pas un moment de joie pour nous tous, les amis. Pendant que certains profitent de bons moments en famille, d'autres souffrent car c'est un rappel que papa et maman sont divorcés. D'autres souffrent de solitude, de perte d'emploi, de maladie, de relations familiales brisées. Et je suis content d'avoir entendu une prière ce matin pour ces personnes qui souffrent. La tristesse de Dieu n'est pas présente juste à cause d'une date, mais à cause d'un monde qui se perd, se détourne et se moque de Jésus-Christ lui-même, sa naissance, son œuvre de sauvetage de l'humanité. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la naissance de Jésus-Christ est le cadeau de Dieu pour nous. Cette naissance révèle des choses extraordinaires sur Dieu pour nous. C'est ce que nous sommes en train de contempler dans la série de messages qui s'intitule Noël. Noël, Dieu se révèle. Nous avons vu que la naissance de Jésus-Christ nous révèle là, pour ceux qui ont suivi. On entend les mouches qui volent, c'est ça ? La fidélité de Dieu. Et le premier message, c'était que Dieu nous révèle quoi ? Enfin, Noël nous révèle quoi ? La souveraineté de Dieu. Ce matin, nous allons voir un caractère de Dieu capable de combler les besoins les plus profonds de l'être humain. Ce caractère de Dieu a transformé des milliers de vies, dont la mienne et plusieurs ici. Ce caractère de Dieu est capable de nous amener à guérir des blessures du passé, de nous aider à traverser les pires épreuves de la vie avec des forces renouvelées, de nous secourir de toute emprise démoniaque et de dépendance, de nous pousser à aimer nos ennemis. Imaginez un peu, oser aller jusque-là, aimer au point d'aimer nos ennemis. De nous rendre aussi généreux et compatissants, et enfin, de nous faire goûter toujours un peu plus au bonheur immense, inégalé, indépassable qu'il y a en Dieu. Ce caractère de Dieu révèle avec plus de clarté à la naissance de Jésus-Christ. Se révèle avec plus de clarté à la naissance de Jésus-Christ. Et ce caractère c'est l'immense amour de Dieu. Nous allons voir ce matin Noël, l'amour de Dieu révélé. Je vais maintenant décrire plusieurs facettes de l'immense amour de Dieu à l'aide de plusieurs textes bibliques. Je commencerai en reprenant les textes des messages précédents. C'est parti. Premièrement, l'amour de Dieu est ardent. Je lis la magnifique promesse d'Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6, sur la naissance de Jésus-Christ. C'était Paul Kuhn qui avait prêché sur ces versets au début de notre série de messages. Donc je cite. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Avant ce passage, dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 4, Dieu promet la libération de son peuple qui était opprimé par ses ennemis. C'est après cette promesse que Dieu présente Jésus comme le roi à venir qui, doté d'une sagesse extraordinaire, instaurera son règne de justice et de paix pour l'éternité. Le prophète Ésaïe avait déjà vu l'immense amour de Dieu dans ce projet de la naissance de Jésus-Christ quand il écrit au verset 6, nous l'avons vu, « Voilà ce que fera le Seigneur des armées. » Dans quoi ? Dans son ardent amour. Ardent amour a été aussi traduit dans d'autres versions bibliques par brûlant amour, zèle, jalousie ou ardeur de Dieu. Des mots très forts. Dieu donne une promesse qui a pour motivation son zèle, qui est sa volonté arrêtée de réaliser ses desseins et de briser toute volonté qui s'y opposerait. Cette promesse a aussi pour motivation son ardent amour, brûlant, sa jalousie, son zèle pour son peuple. C'est très fort. Alors, quand nous parlons de Noël, rappelons-nous du zèle de Dieu et de son ardent amour pour nous. Dieu nous aime ardemment. Son amour est intense pour nous. Deuxième facette de l'amour de Dieu sauve. Je lis maintenant dans la Bible, Luc, chapitre 2, versets 29 à 37. C'était David Dixon qui avait prêché sur ces versets dimanche dernier. Je cite. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Siméon parle de l'amour de Dieu en disant que Jésus, qu'il est le Sauveur qui vient de Dieu en faveur de tous les peuples. La lumière pour éclairer les nations et qu'il sera la gloire d'Israël, son peuple. Des mots très forts. L'amour de Dieu ici est clairement révélé. Dieu envoie Jésus pour sauver l'humanité du péché, du mal, de la souffrance, de la mort et de l'enfer. Jésus vient sur terre précisément pour nous sortir de notre plus grande misère et pour nous offrir son amour, sa proximité, sa paix, sa joie, la vie éternelle sur une nouvelle terre où il n'y aura plus le mal, plus la souffrance, plus le péché. Un bonheur éternel nous attend dans la présence de Dieu. Bien sûr, si nous disons oui à son amour sur terre. Pensons à cela aussi. Noël, c'est l'amour de Dieu qui nous sort de notre plus grande misère en nous sauvant par Jésus-Christ qu'il a envoyé. Troisièmement, l'amour de Dieu recherche notre proximité. Dans Luc chapitre 2, verset 14, la naissance de Jésus pousse une multitude d'anges à chanter devant des bergers ces mots. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Voilà un moment particulier, à ce moment précis où Jésus est né. Les anges rendent gloire à Dieu qui est au plus haut des cieux, qui règne. Les anges proclament ensuite la paix avec Dieu à ceux qu'ils aiment. La paix avec Dieu n'est rendue possible que par Jésus-Christ. C'est par lui que nous pouvons vivre une forte proximité avec Dieu. Je parle ici de proximité relationnelle. Et aussi, ce n'est que par Christ que nous pouvons jouir de son immense amour. La paix avec Dieu devra avoir un impact ensuite entre les êtres humains que nous sommes. La paix avec Dieu et sa proximité sont capables de débloquer toutes sortes de conflits afin de nous amener au pardon. Connaissez-vous l'histoire de ce petit garçon qui voulait recevoir une bicyclette pour Noël? Il se mit un soir à prier très fort, expliquant à Dieu d'une voix la plus haute qu'il le pouvait le genre et la couleur du vélo qu'il désirait. Sa mère s'approcha pour lui dire « Mon petit, tu n'as pas besoin de crier aussi fort pour que Dieu t'entende. » « Je sais, maman, » répondit-il, « mais je dois crier aussi fort afin que papy puisse m'entendre et m'acheter ce vélo. » Les amis, l'amour de Dieu recherche notre proximité. Pas besoin de crier comme cet enfant. Dieu n'est pas loin. Si nous venons à lui par Jésus-Christ, il vient habiter en nous par son Saint-Esprit pour une forte proximité avec nous. C'est énorme. Dieu est en nous par son Esprit. Quand nous fêtons Noël, rappelons-nous que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous soyons en paix avec lui pour l'éternité, afin de vivre avec lui dans une forte proximité. Et jouissons toujours plus d'une profonde relation avec lui. Quatrième facette de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une grâce. Marie a aussi dit des choses fortes sur l'amour de Dieu dans la louange qu'elle donne à Dieu après avoir entendu la nouvelle de Jésus qu'elle va porter miraculeusement dans son ventre. Je cite Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches, les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Marie, dans sa prière de louange, utilise le mot grec « eleos ». Et je sais que vous l'utilisez couramment, vous aussi. Non, hein ? Pour parler de l'amour de Dieu, « eleos ». Ce mot a été traduit dans nos Bibles par « bonté et miséricorde ». L'amour de Dieu s'exprime par sa bonté et sa miséricorde. Le mot grec « eleos », c'est une bonté ou bonne volonté envers le misérable et l'affligé joint à un désir de les aider. Dans ce mot, il y a la compassion, la providence, la miséricorde, la clémence de Dieu offrant aux hommes le salut par Jésus-Christ. Donc, l'amour de Dieu, sa bonté, ou plutôt l'amour de Dieu, c'est sa bonté, sa miséricorde et sa grâce imméritée envers nous. Par sa grâce imméritée, il aide, il pardonne, il guérit, il restaure, il console, il encourage, il secourt, il sauve tous ceux qui viennent à lui. Marie reconnaît qu'elle ne mérite pas du tout de recevoir Jésus-Christ, le roi des rois, le sauveur du monde dans son ventre. Moi, porter cet enfant. Elle le dit dans le verset 48, « Il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. » C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Qui suis-je pour mériter une telle faveur ? Dieu me fait expérimenter sa bonté et sa miséricorde. Il m'a fait grâce. Dieu agit ainsi aussi envers son peuple. Marie a dit dans sa louange, nous avons vu cela dans les versets 51 et 53, « Il a élevé les humbles. » Et verset 53, « Il a comblé de bien ceux qui sont affamés. » Dieu a toujours agi ainsi. Il élève les humbles, il comble les affamés. Mais pourquoi Dieu agit-il ainsi ? Voici la réponse que nous donne la Bible dans Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques est toujours très direct dans ses mots. J'aime bien souvent dire « Jacques a dit ». Voici ce qu'il dit. « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le Dieu aime, le Dieu qui nous a créés, aime toutes ses créatures. Et il frappe sans cesse au cœur de chacun pour que nous puissions expérimenter sa grâce et son amour. Mais sa grâce et sa présence ne peuvent être accessibles que si nous reconnaissons avec humilité que nous avons besoin de lui. Ceux qui vivent dans l'orgueil et maintiennent leur position orgueilleuse ne pourront pas expérimenter la grâce de Dieu. Une bonne prière à faire pour ceux et celles qui ne se sont pas tournés vers Dieu. Brise leur orgueil pour qu'ils reconnaissent leur besoin de toi. À Noël, réjouissons-nous de ce que l'amour de Dieu est une grâce. Nous ne méritons rien de Dieu. Pourtant, il a tout fait pour que nous puissions jouir de son immense amour et de sa présence pour l'éternité. Cinquième facette, l'amour de Dieu est saint. Marie le dit ainsi, verset 50, « Et sa bonté s'étendra d'âge en âge. Sur qui ? Sur ceux qui le révèrent. » Elle dit plus loin, verset 54, « Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert. » Encore aujourd'hui, une multitude de personnes pensent qu'on peut avoir une relation avec Dieu tout en menant une vie de péché, en commettant le mal. Et quand je parle d'une multitude de personnes, il y a aussi des gens soi-disant chrétiens, qui se disent chrétiens, qui fréquentent les églises, qui sont peut-être face à nous des chrétiens modèles, mais qui dans le quotidien n'ont aucun problème à insulter, à mentir, à tricher. J'espère que nous ne sommes pas ces chrétiens là ce matin. Ce serait mal comprendre l'amour de Dieu si on mettait de côté sa sainteté. James Packer, professeur de théologie systématique et de théologie historique, considéré comme l'un des évangéliques les plus influents d'Amérique du Nord et auteur de nombreux livres, a dit ceci dans son livre « Connaître Dieu ». Je cite « L'amour de Dieu est un amour saint. Le Dieu que Jésus nous a fait connaître n'est pas un Dieu indifférent aux valeurs morales, mais un Dieu qui aime la justice, qui haït l'iniquité, un Dieu dont l'idéal pour ses enfants est qu'ils soient parfaits comme leur Père céleste est parfait. Il n'acceptera pas à ses côtés quelqu'un qui, aussi orthodoxe que soient ses idées, ne recherche pas une vie de sainteté et à ceux qu'il accepte. Il impose une discipline sévère afin qu'il puisse parvenir à vivre cette vie de sainteté qu'il recherche. » Plus loin, il dit ceci, « L'amour de Dieu est un amour grave, car il témoigne de la sainteté de celui qui aime et appelle à la sainteté celui qui est aimé. Rien dans les Écritures ne nous permet de supposer que, parce que Dieu est amour, nous puissions jeter sur lui pour assurer le bonheur de ceux qui ne recherchent pas la sainteté ou pour protéger ses bien-aimés de l'adversité lorsqu'il sait celle-ci nécessaire à leur sanctification. Fin de citation. Petite page de pub. Si vous n'avez pas lu le livre de James Packer qui s'appelle « Connaître Dieu », vous avez une grosse lacune. Je suis gentil quand même en disant ça. Non, c'est un livre incroyable. Si vous voulez un bon livre pour connaître Dieu, pour grandir dans la connaissance de Dieu, je vous encourage à le prendre, celui-là. Et je viens d'acheter en plus la version où on peut le lire toute l'année. Donc il est possible d'avoir connaître Dieu, mais en lisant un texte par jour. C'est génial. Donc il est aux éditions Excelsis, je ne me rappelle plus, il y a d'autres éditions qui le vendent aussi. Voilà, un bon livre pour Noël ou pour l'année qui arrive. Il y a toutes sortes d'idées que les gens ont sur l'amour de Dieu. Mais dire que Dieu est amour est insuffisant, les amis. En disant que Dieu est amour, certains pensent que Dieu accepte tout. Il est amour, donc il est totalement tolérant. C'est un Dieu qui tolère tout et n'importe quoi. Dieu est amour, c'est son métier. Nous irons tous au paradis, n'est-ce pas ? L'amour de Dieu est pour tous, mais ce sont ceux qui sont prêts à reconnaître leurs besoins de lui qui pourront l'expérimenter. Ce sont ceux qui se détournent du mal, de leur péché, qui se tournent vers lui, qui pourront expérimenter son immense amour. Marie le dit très bien, et je le répète dans les versets 50, « Sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent, pas sur ceux qui font le mal. Révérer Dieu, c'est lui donner la plus haute place, le plus grand respect. » Et quand on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, on comprend que révérer Dieu, en fait, c'est l'aimer intensément, avec respect. Marie dit aussi, donc verset 54, nous l'avons lu tout à l'heure, « Oui, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, et non ceux qui servent d'autres dieux qui n'existent pas, ou vivent pour eux-mêmes. Servir Dieu, c'est se donner tout entier à lui, faire sa volonté, faire ce qui lui plaît, avec joie et amour et reconnaissance. » N'oublions jamais cela. En fêtant Noël, l'amour de Dieu est saint. Réjouissons-nous d'avoir un Dieu saint qui ne supporte pas le mal et qui a tout accompli pour nous sortir du mal et du péché, pour vivre éternellement dans un amour saint, pur et parfait. Sixième et dernière facette de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu durera toujours. Ce serait dommage que l'amour de Dieu dure un instant, n'est-ce pas ? Verset 50. « Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. » Il n'est pas dit que la bonté de Dieu s'étendra pendant un temps limité. Le texte nous dit d'âge en âge. On a d'autres traductions qui utilisent les termes de génération en génération, en tout temps, pour toujours. Nous sommes si instables pour aimer, n'est-ce pas ? Nous pouvons être tellement blessés par les autres que notre amour peut se transformer en haine. Dieu reste stable dans son amour. Non seulement il aime intensément, mais aussi éternellement. Écoutez ces deux textes extraordinaires. Jérémie 31, verset 3. Laissons-nous toucher par ces paroles. « Je t'aime d'un amour éternel. » Waouh. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Combien de fois je suis tombé dans le péché ? Combien de fois j'ai fait du mal à Dieu par ma vie ? Combien de fois j'ai abusé de son pardon ? Et pourtant, Dieu reste ce Dieu qui pardonne et qui m'aime ainsi éternellement. Laissons-nous toucher par ces paroles et que ça nous transforme. Un autre texte qui est fort, c'est Romains 8, versets 38 et 39. L'apôtre Paul dit ceci, Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, on dit un grand Amen. Durant cette période de Noël et toute notre vie, rappelons-nous que l'amour de Dieu pour nous est éternel, parce qu'il est amour. Je vais conclure. Noël, c'est Dieu qui se révèle à ses créatures. Il a révélé avec force sa souveraineté, sa fidélité et aussi son amour. Nous avons vu que l'amour de Dieu est ardent, il sauve, il recherche notre proximité, il est une grâce, il est saint, il durera toujours. Après autant de vérités touchantes sur l'immense amour de Dieu, nous devons répondre. Que notre réponse à l'immense amour de Dieu soit un amour plus grand pour lui. Une reconnaissance qui s'exprime par toute notre vie. Un amour que nous offrons à tous ceux que nous côtoyons. Partageons l'amour de Dieu aux autres. Prions pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Que Dieu touche encore et encore des milliers et des milliers de vies. Que nos enfants entendent cette prière tout le temps. Réparons les relations brisées par la puissance de Dieu. Vivons une relation plus profonde avec Dieu. Soyons toujours plus conscients de sa présence au quotidien. Laissons son amour nous toucher et nous transformer. Pendant que je préparais ce message, c'est comme si Dieu me disait « J'ai besoin que tu dises à l'Église que je veux qu'elle soit jour après jour consciente de ma présence. » C'est comme si Dieu me disait, je voyais Dieu me parler en train de me dire que nous avons tendance, nous, à marcher au quotidien comme s'il n'était pas là avec nous. Et Dieu veut ça pour nous. Le fait de savoir que Dieu est avec nous et d'être conscient de sa présence, ça transforme notre vie quotidienne. Et ça attriste le cœur de Dieu quand... C'est comme si je priais le matin et puis je dis, bon, Seigneur, je te prie, puis après, à ce soir, pour un autre moment de prière. Ou pour d'autres, ça va être à dimanche prochain. Pas de relation, pas d'intimité avec Dieu. Si Dieu s'est révélé dans son amour, c'est pour une relation profonde avec toi, avec moi. Et pendant que j'entendais le Seigneur me parler, j'étais sérieusement repris. Nous avons besoin de vivre en étant conscients sans cesse de la présence de Dieu. Que Dieu nous aide à vivre cela. L'immense amour de Dieu me pousse à vous souhaiter avec force. Joyeux Noël à tous. Dieu notre Père. La Bible dit dans 1 Jean 4, versets 9 à 10. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Merci, notre Dieu, d'avoir envoyé Jésus-Christ pour nous donner la vie éternelle. Nous méritons tous la mort et l'enfer à cause de nos péchés. Mais par Jésus-Christ, sa venue sur la terre, sa vie, ses souffrances, sa mort à la croix et sa résurrection, nous pouvons être libérés de nos fautes pour vivre éternellement dans ta présence pour l'éternité. Nous avons vu ce matin que ton amour est ardent, qu'il sauve, qu'il recherche notre proximité, qu'il fait grâce, qu'il est saint et qu'il durera pour toujours. Tu n'es pas un Dieu qui parfois aime et parfois n'aime pas. L'amour n'est pas quelque chose qui te demande de faire des efforts. Tu es amour. L'amour t'habite dans sa plénitude. Dieu notre Père, nous t'admirons et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons attristé à cause du peu de temps que nous te donnons au quotidien. Pardon aussi pour le peu d'amour que nous donnons aux autres. Agis en nous, t'en supplions. Nous voulons jour après jour expérimenter ton amour, vivre dans une profonde intimité avec toi et aimer comme toi. Seigneur, si il y a des relations brisées, des relations où tu veux que nous allions vers l'autre pour vivre le pardon, Seigneur, que tu nous aides à le vivre par la puissance de ton esprit. Que toute notre vie soit reconnaissance pour Jésus-Christ qui est venu et qui a donné sa vie. Amen.